Radio Kapi. Oh, Kapi.
Cette présumée criminelle présentée hier par le maire de Goma, il s'agit des présumés recruteurs du 1-23, des militaires en divagation et des militaires ayant fui le front. Les institutions universitaires appelées à respecter le calendrier fixé par les autorités compétentes, la rentrée académique doit être uniforme et synchronisée sur l'ensemble du territoire national. L'appel est du chef de l'État vendredi lors du Conseil des ministres. C'est là pour garantir une gestion optimale du système éducatif et favoriser l'égalité des chances pour tous les étudiants. Clôture ce dimanche à Maï, centre du concours sur l'art oratoire. Durant près de 3 semaines, les compétiteurs ont présenté devant un jury des exposés autour des questions sur la paix et la promotion du genre. Nous en parlons avec Elisière Bitoua, chargée de communication de la structure organisatrice. Bonjour à tous. À Goma, 17 présumés criminels arrêtés ont été présentés par le maire ce week-end. C'était lors d'une opération de bouclage ciblée menée par les services de sécurité dans un petit hôtel dénommé Vision 2020 dans le quartier Majengo. Munis de 3 armes à feu, certaines parmi ces personnes ont été présentées par l'autorité urbaine comme des présumés recruteurs du 1-23, d'autres encore comme des militaires en divagation et ceux qui auraient fui le front. Écoutons le commissaire supérieur principal Capinde Kamande Faustin dans ses propos recueillis par Denise Loukesso.
Une particularité aujourd'hui, nous avons interpellé les motards qui sont venus de Bunagana, de Rutshuru et de Kiwanja. Ils étaient ici en train de recruter les jeunes gens pour renforcer les effectifs du M23. Ils sont soumis à une investigation, une enquête approfondie. Au lieu de faire beaucoup de tapage dans les réseaux sociaux, nous invitons toujours les gens de bonne volonté de nous amener les renseignements. Si nous avions ciblé ce petit hôtel de Majengo, c'est parce qu'on a eu les renseignements. Et on a arrêté et les militaires en divagation, ceux qui ont fui aussi le front et ceux qui viennent pour recruter. Nous n'allons pas nous fatiguer. La population de Goma, je suis en train de vous dire que les infiltrés sont là, nous les arrêtons. Et vous voulez préparer les lits pour l'ennemi. Certains animateurs de mouvements citoyens qui devraient être véritablement mouvements citoyens pleins de vertus et du civisme. Mais maintenant, ils sont là dans le jeu de l'ennemi.
Le commissaire supérieur principal Capinde invite la population à fournir des renseignements aux services de sécurité pour traquer les semeurs d'insécurité dans la ville de Goma et ses environs. Dans le territoire de Beni, la société civile dénonce les tracasseries que subit la population dans la région de Mutuanga par les soldats des FRDC, arrestations arbitraires, humiliations de toutes sortes, la liste est longue. Pour préserver le mariage civilo-militaire dans cette région, les acteurs de la société civile locale plaident pour l'implication des autorités administratives et militaires afin que les auteurs de ces tracasseries soient identifiés et punis. Marc Marofimbo pour des précisions.
La société civile du territoire de Beni s'est dit choquée par, je cite, ce que font les militaires dans les activités du secteur de Renzori dans le territoire de Beni. Fin de citation. C'est par exemple des crépitements de balles régulièrement enregistrés et sans justification valable. Cette structure citoyenne cite aussi des tracasseries par des patrouilleurs de nuit comme de jour, précisément en Nzenga, Mwenda, Loselose ou Mutuanga. Mutuanga où des militaires arrêtent des jeunes avec des longs cheveux qu'ils coupent ensuite avec des lames de rasoir sous le prétexte qu'ils sont des ADEF. La société civile demande l'implication urgente des autorités alors qu'une certaine méfiance commence à s'installer entre la population et l'armée dans cette région. Richard Kirimba, conseiller et membre de la société civile en territoire de Beni.
Passe à Mutuanga et ses environs, ce sont des pratiques donc honteuses, des pratiques charlatanistes et des pratiques démodées, c'est dépassé. Et d'ailleurs, le mariage civilo-militaire est sur une pente à Mutuanga. Et nous demandons ainsi aux différentes autorités, parce qu'elles sont déjà saisies, de tout faire pour mettre fin à cette honte, que les auteurs soient sanctionnés et qu'il cesse de jouer les jeux de l'ennemi.
Contacté par Radio Kapi, les porte-parole de l'armée dans la région affirment que des investigations sont à cours pour identifier les militaires auteurs de ces tracasseries afin qu'ils répondent de leurs actes. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Dans le territoire de Lubero, Nord Kivu, la société civile du secteur des Bapéré doute de la reprise des cours demain lundi. C'est en raison des attaques des ADF et de la menace du M23 dans les entités du groupement de Batiki. Ici, tous les villages se sont vidés de leurs habitants, les uns en direction de Djiampanda, chef-lieu du secteur des Bapéré, les autres vers Butembo. Samuel Kakoulé, le président de la société civile locale, plaide pour une forte pression militaire dans cette région qui connaît une double menace, celle des ADF et des M23. Samuel Kakoulé est au micro de Marc Marofimbo.
Comme la situation est très précaire, je doute que la rentrée soit vraiment effective dans d'autres zones comme à Isangi, à Bandulu, à Ombole et vers Itaito et à Fatua. En tout cas, la rentrée est certaine. Compte tenu des déplacements massifs de toute la population qui était là-bas, s'est déjà déplacée jusqu'à Mangurejipa, au chef-lieu du secteur de Bapéré. D'autres sont à Butembo. On signale la présence des ennemis ADF dans la zone, telle part, mais il y a lenteur dans l'exécution des traques de ces ennemis. C'est pourquoi même dans notre suspension des activités, nous avons recommandé à ceux qui aient relèvement qu'on puisse changer la coordination des opérations basées en Djiampanda, parce que ça c'est un blocage de notre part, parce qu'il n'est pas réceptif aux doléances de la paisible population. Et l'ennemi est en train de gagner d'espace en espace et de village, brûler la paisible population et même leur bien automatiquement, et aussi une part de responsabilité dans tout ça.
Contacté par Radio Okapi, le porte-parole des FARDC dans le Grand Nord, le colonel Makazuka, indique que les déploiements de l'armée s'est fait graduellement dans les entités du territoire de Lubero pour contenir la menace des ADF et du M23. Dans la province du Maniema, la situation sécuritaire est redevenue calme dans les territoires de Kasongo après un moment de trouble des affrontements entre deux factions qui s'affrontaient à tout moment. Cette affirmation est du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité à l'issue d'une mission dans ce territoire. Lawamo Selemani parle aussi des otages libérés et armes saisies. Il plaide pour la mise en œuvre du processus de désabonnement et démobilisation. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Son Excellence Moussa Kabankou Moïse, le gouverneur de cette province, nous a délégué au sud du Maniema pour qu'on puisse travailler pour les camps, parce que lui privilégie la paix, surtout que la paix était embrasée avec les affrontements qu'il y a eu le 27 juillet. Alors, la paix, on peut dire au stade actuel que la paix est revenue. Et vous venez de voir que nous venons de remettre à l'autorité, il y a 6 motos, 3 armes, AK-47. Et les otages qui ont été fait libérer. Donc, c'est un sentiment de satisfaction pour nous. Ces deux factions attendent la démobilisation. On leur a dit qu'ils ne pouvaient pas se substituer à l'État, ils ne pouvaient pas procéder aux arrestations. Ils avaient les devoirs de se soumettre à l'autorité de la loi. Donc, on leur a dit que celui qui va compromettre la paix, il va trouver l'État sur son chemin. Nous avons institué une commission locale, une commission de suivi pour qu'on puisse suivre leur activisme. Mais on a déploré le fait qu'il y avait une extension et surtout que nous regrettons plus le retard dans les processus de démobilisation. Alors, nous savons qu'avec le processus de démobilisation, on va réussir à calmer la situation et la situation va revenir à la normale.
Au Congo central, 10 jours se sont écoulés depuis la détention par les militaires angolais de 6 chasseurs congolais. Ces derniers ont été arrêtés en pleine chasse depuis le 19 août dernier au village Guiongo, dans le territoire de Gombe Sud, territoire de Mbanzangungu, à la frontière avec l'Angola. L'élu de Mbanzangungu, les députés nationaux Pierre Ntsumbu fustigent le prolongement de la captivité de ces chasseurs congolais en dépit des démarches entamées par le ministre provincial de l'Intérieur pour leur libération rapide. Il appelle les autorités nationales d'user de toutes les voies diplomatiques pour résoudre ce problème. Le député national Pierre Ntsumbu, dans ses propos recueillis par Nana Plurichmambu.
53 chasseurs de village Guiongo et Paza dans le secteur de Gombe Sud, territoire de Mbanzangongo central, ont été surpris en pleine partie des chasses dans une forêt proche de l'Angola par 2 militaires angolais. Alors que 47 d'entre eux ont été relaxés, 6 sont malheureusement encore gardés en terre angolaise avec une trentaine de fusils de chasse calibre 12 et 44 cartouches. Malgré les efforts entrepris par nos autorités provinciales qui sont entrées en contact avec les consuls angolais bas à Matadi, rien alors n'a fait pour que nos frères retrouvent leur liberté. Et cela malgré même les assurances de ces consuls qui a promis leur libération pour hier. C'est ici que nous venons lancer un cri de détresse à l'endroit des autorités nationales, notamment le VPM en charge de l'intérieur et celui des affaires étrangères, pour que toutes les batteries soient mises en marche en usant de voies diplomatiques possibles pour voir nos frères regagner leur pays, la RDC, qui a tant besoin d'eux, et leurs familles qui vivent actuellement dans l'angoisse.
Je l'ai dit dans les titres, le président Félix-Antoine Tshisekedi exige l'harmonisation du calendrier académique au sein des institutions d'enseignement supérieur et universitaire pour stopper cette tendance à l'anarchie où des établissements fixent de manière individuelle et sans concertation leur propre calendrier académique, notamment la date de la rentrée. Il l'a annoncé au cours du Conseil des ministres du vendredi 30 août. Selon lui, cette situation crée un désordre qui perturbe l'organisation, la préparation des étudiants ainsi que celle des parents. Dans le calendrier réaménagé publié le 17 août, la ministre de l'ESU, Marie-Thérèse Sombo, fixe l'ouverture de l'année académique 2024-2025 le 28 octobre prochain et la clôture de l'année académique en cours est programmée au 16 septembre. Les détails avec vous, Alain Irung.
Pareille situation ne peut être tolérée. Il est impératif que toutes les institutions académiques respectent rigoureusement le calendrier fixé par les autorités compétentes. La rentrée académique doit être uniforme et synchronisée sur l'ensemble du territoire national afin de garantir une gestion optimale de notre système éducatif et de favoriser l'égalité des chances pour tous les étudiants, tant au niveau national qu'au niveau international, a expliqué le président de la République dans le compte-rendu lu par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a été instruite à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour assurer cette harmonisation, car, a ajouté Muyaya, il y a lieu de rappeler fermement à chaque établissement l'obligation de se conformer aux directives officielles. Par ailleurs, le président de la République a insisté sur des sanctions strictes qui devront être appliquées à l'encontre des institutions qui persisteraient à se soustraire à cette mesure. Il attend un rapport sur l'exécution de cette instruction avant la prochaine rentrée académique.
Direction l'Ituri, où l'hôpital général de référence de Rouen-Para, situé à 12 km de Bounia, éprouve des difficultés pour accueillir des malades. Faute d'espace, des malades partagent parfois le lit à deux, d'autres se couchent à même le sol. À cela s'ajoutent plusieurs autres défis qui ne permettent pas au personnel soignant de prendre correctement en charge des patients dont nombreux sont des déplacés de guerre dépourvus des moyens. Le point dans ce reportage de Jean-Claude Loki.
D'une capacité de 101 lits, cet hôpital reçoit des malades, notamment de deux sites déplacés situés dans la périphérie de la ville de Bounia. Certains proviennent de la communauté locale, dont les membres sont aussi démunis à cause des conflits armés. Une situation qui ne permet pas aux corps soignants d'offrir des soins de qualité à la population. Le docteur John Moïto est le médecin directeur de l'hôpital général des références de Rouen-Para.
Bon, vous savez, la prise en charge n'est pas seulement médicale, elle est aussi psychologique. Le malade, une fois arrivé à l'hôpital, peut se sentir très à l'aise quand il est hospitalisé dans des bonnes conditions. Cela nous pousse maintenant à mettre deux malades par lit. Parfois, les autres sont soignés à même le sol. Et ça peut également influer sur la qualité des soins. Sans oublier également les contextes dans lesquels maintenant là, nous vivons. Bien sûr, nous ne sommes pas encore à une épidémie vraiment très éclatée ici en Ituri. Mais nous craignons qu'avec un pox ici, nous puissions mettre deux malades par lit. Ça peut encore aggraver la situation dans les jours à venir.
À cela s'ajoute l'insolvabilité des clients dont certains s'évadent après avoir obtenu de la guérison. Ce qui n'est pas sans conséquence sur la pénurie de médicaments, car l'hôpital ne sait plus renouveler le stock, faute d'argent. Le responsable de cette structure demande au gouvernement, aux organisations humanitaires et même aux agences de l'ONU de voler au secours de cet hôpital qui dessert plus de 263 000 habitants de la région.
Plaidoyer pour le retour de la paix à l'est de la RDC, un des leitmotivs du film documentaire Le voyage vers l'est du réalisateur Mike Kajabika. Sa première projection VIP est intervenue samedi à Kinshasa en présence du deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bati Lukwebo, des notabilités et membres des communautés de l'est. Un film documentaire qui se présente comme vecteur de la culture des peuples, mais aussi en réponse à la déculturation tant décriée par son réalisateur Jean-Désiré Kanyama. Reportage.
Jusqu'à ce jour, nous avons plus de 7 millions de déplacés internes. Nous en sommes à plus de 10 millions d'âmes qui dorment.
L'histoire de l'Est de la RDC est peinte actuellement en noir, témoigne le président des notabilités et communautés du Grand Kivu, Joseph Nkinzo.
L'Est, c'est la partie qui semble être ignorée par un certain nombre de nos concitoyens. Le sang continue à couler chez nous.
À ce tableau sombre, les réalisateurs dénoncent une stigmatisation qui pourtant ne se justifie pas. Mike Kajabika, Sainet.
Plusieurs des Congolais ne savent pas l'histoire du site Kivu. Toutefois, ils attendent sur Kivu, ils pensent les Rwandais. Alors, je voulais montrer aux Congolais que les Bashi, les sites kivuens, ne sont pas des Rwandais. Ce sont des Congolais et c'est très important qu'on sache notre histoire.
Aussi bien vecteur de la culture des peuples, ce documentaire se positionne en action de plaidoyer pour la paix à l'est de la RDC. Également une réponse à la déculturation. Le prof Tira est l'un des acteurs principaux.
La culture, c'est la politique même. Ceux qui croient qu'ils peuvent faire de la politique en négligeant la culture nationale, je crois qu'ils se trompent.
Les voyages vers l'Est, c'est surtout la présentation d'une histoire différente des traditions du Bushi-Buravu et des peuples congolais.
L'invité.
Clôture ce dimanche 1er septembre à Mahagui, centre du concours sur l'art oratoire, organisé par le centre des jeunes Monseigneur Marcel Outembi. Cette activité avait pour objectif d'encadrer les jeunes pendant la période des vacances qui s'achève aujourd'hui. Durant près de 3 semaines, les compétiteurs ont présenté devant un jury des exposés autour des questions sur la paix et la promotion du genre. Pour en parler, nous recevons Eliezer Pitoua, le chargé de communication de ce programme. Il est interviewé par Jean-Claude Lokidile.
Eliezer Pitoua, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le coordinateur de cette première édition de la colonie des vacances, la paix et la promotion du genre. Pourquoi le choix de ces deux thèmes?
Vous connaissez déjà le contexte de notre province, contexte marqué essentiellement par des défis importants liés aux conflits communautaires et des conflits qui engendrent des violences basées sur le genre sous toutes ses formes et qui affectent toute la communauté, bien sûr, mais aussi de manière assez particulière la jeunesse. C'est dans ces contextes que le centre de jeunes Monseigneur Marcel Outembi a initié ses colonies des vacances. Et donc l'objectif est de sensibiliser ces jeunes à la paix et à l'égalité des genres à travers ces concours. Et aussi il y a des activités secondaires culturelles. Donc c'est un programme qui vise à vraiment renforcer les compétences oratoires d'abord des jeunes, parce qu'il s'agit des étudiants et des élèves qui sont des candidats pour ce concours, et à promouvoir la tolérance et le respect mutuel, à encourager la participation active des jeunes dans la construction d'une société pacifique.
Je rappelle que étudiants et élèves compétissent donc depuis le 11 août où il y a eu le lancement officiel. Quelle est l'étape suivante? Pourquoi on peut dire qu'est-ce qui va se passer après ce concours? Est-ce que vous allez monter une structure qui va pour rester de manière pérenne?
Ces candidats vont constituer pour nous un noyau permanent au sein de la bibliothèque des Pères Blancs pour former un club de lecture. Un club de lecture dans lequel vont se dérouler de manière assez régulière les discussions autour de la paix et de la promotion du genre. Question de pérenniser cette culture au lieu de laisser le jeune s'adonner à la toxicomanie, à la danse inutile, à des activités qui n'avancent pas à grand-chose, mais qui continuer à nous maintenir dans ces cycles infernales de conflits, de violences. Il faut travailler sur le mindset, sur le mental, sur la construction d'une nouvelle génération qui puisse réfléchir sur son avenir. Parce qu'il ne faut pas seulement attendre la communauté internationale, il ne faut pas seulement attendre Kinshasa, il ne faut pas seulement attendre Bounia, mais Mahagui peut aussi seul réfléchir et voir dans les contextes de ces territoires comment le jeune peut contribuer, comment la bibliothèque, en organisant des discussions au sein de ce club de lecture, peut aussi assortir des recommandations utiles pour pouvoir créer finalement un climat de sérénité que nous tous visons dans la province, dans notre très chère province de l'Ituri.
Dernière question, Eliezer Pitoua, quels sont les critères de sélection?
Au départ, nous avons enregistré gratuitement d'ailleurs 10 candidats, dont 8 hommes et 2 femmes, 8 étudiants et 10 étudiantes. Malheureusement, nous avons pu constater que 2 candidats ont désisté, dont une étudiante. Donc là, nous ne restons qu'avec 8 candidats, dont une seule étudiante, que nous encourageons vraiment, parce que c'est rare de trouver, surtout les filles, s'impliquer. Ce sont parmi les éléments aussi qui font un peu mal, si on parle de la promotion du genre et qu'on constate que les filles ne sont pas vraiment mobilisées dans de telles activités, ça nous fait réfléchir encore à d'autres stratégies pour les prochaines éditions, voir comment on peut au maximum atteindre les filles et les femmes, qu'elles soient impliquées, qu'elles réfléchissent aussi.
Eliezer Pitoua, je vous dis merci.
Ainsi s'achève ce journal, coordonné par Jacques-Yves Molima, sous la supervision d'Alain Irung, Jean-Noël Mokondo, la mise en onde. Merci de l'avoir suivi.